Chapitre 5. Madeleine souffla sur une longue mèche qui collait à son front trempé. Les journées et les nuits étaient si chaudes depuis une semaine qu'elle n'avait aucun répit. Elle avait de plus en plus hâte à la naissance de son enfant. Au moins, elle n'aurait plus ce lourd poids à transporter partout. Sur le calendrier imprimé par son oncle Jean-Julien, la date butoir du 15 août, entourée en rouge, se rapprochait. Plus que 10 jours, songea la femme en traçant un X sur le 5 août à son arrivée dans la cuisine au petit matin. Traînant ses pieds gonflés près de sa grand-mère qui se berçait en attendant son arrivée, elle soupira. « Mon doux, j'ai de la misère à dormir. À qui le dis-tu? Je me berce depuis 3 heures, » déclara Palmyre en riant. « Je vais ouvrir la porte, on va peut-être avoir un peu plus d'air. » Madeleine joignit le geste à la parole avant d'aller se verser un grand verre d'eau. Elle prit place à la table et grignota un morceau de pain sans appétit. « Rajoute un peu de beurre, ça va être moins sec, ma fille !» l'incita Palmyre. Mais Madeleine plissa le nez en secouant la tête. « J'ai trop chaud pour avoir faim. » Après une matinée occupée à préparer le ragoût du soir et les galettes aux pommes préférées de Freddy, les femmes s'installèrent sur le balcon pour profiter de la petite brise qui s'était levée. Madeleine allait raconter à sa grand-mère une histoire entendue à la radio la veille lorsqu'elle aperçut Lucienne Marcellet sur le chemin de terre, marchant à toute vitesse sur ses jambes courtes. Sa voisine d'en face, une femme rousse à la silhouette replète, n'hésita qu'une seconde en arrivant devant la Maison Bleue. Elle bifurqua directement dans l'allée, puis grimpa sur le balcon en demandant d'une voix où perçait l'excitation « Tu viens pas voir, Maddy? » « Voir quoi? » Madeleine fronça les sourcils, cessa son va-et-vient dans sa chaise et se pencha vers l'énergique femme. Lucienne pointa une main vers la mer en évitant de regarder sa jeune voisine directement dans les yeux. La sexagénaire n'arrivait pas à décider quoi faire dans la crise qui secouait les sœurs Gérard. D'un côté, elle était plus près de Madeleine depuis que cette dernière avait repris la maison de ses parents. De l'autre, son mari Bourbeau, dit Tibouk, était le petit cousin d'Horace la Violette, le beau-père de Simone. « Ça a l'air qu'un des hommes a pêché un monstre! » Madeleine sourit, se leva lentement en plaçant une main sous son ventre et regarda le fleuve. De sa maison, elle ne voyait pas la plage et ses vigneaux, mais si un bateau entrait dans la baie, elle l'apercevrait. Palmyre arrêta de broder le mouchoir qu'elle tenait pour porter attention à la conversation. La clameur montait du centre du village, un peu plus bas. Sur le chemin principal et sur la plage de Galais, la nouvelle se propageait à toute vitesse. Un des pêcheurs avait réussi à capturer un énorme poisson. Comme cela n'arrivait qu'une fois tous les 4 ans environ. Lucienne trépignait sur place en priant pour que son Tibouk soit l'heureux élu. Avant la tragédie de juin, Madeleine aurait rigolé de voir sa voisine s'énerver ainsi. À la place, elle demanda sérieusement « Si gros? T'es certaine de ça? » « Ben, c'est ce que le gars du Bedeau a dit à Mathias, qui se promène partout depuis 30 minutes en répétant la nouvelle, ça doit être vrai. » Madeleine se retint de déclarer que les 2 sources citées par Lucienne n'étaient pas des plus fiables. À la place, elle secoua doucement sa tête. « Non, non, je vais rester ici avec Palmyre. »« Vas-y donc, Maddy !» s'interposa aussitôt la vieille femme en tenant son châle sur ses épaules. « Je vais rentrer écosser tes poids pendant ce temps-là. Ça va me faire du bien de changer de place. »« Non, non !» répéta Madeleine, mais avec moins de conviction. L'envie de s'éloigner de la maison la titillait malgré ses craintes de rencontrer sa sœur ou Géraldine. Depuis l'arrivée d'Émile Pelletier 2 semaines plus tôt, Madeleine avait évité de se rendre sur la plage. Même si d'un côté la présence de l'homme engagé faisait bien son affaire, de l'autre, elle s'apercevait à quel point les journées étaient longues lorsqu'elle les passait isolée chez elle. Les conversations s'étiolaient avec Palmyre et Madeleine n'avait plus la même endurance au potager. Le matin, après avoir boulangé ou cuisiné, elle se rendait à l'arrière de la maison pour cueillir les légumes et bêcher la terre. Elle nourrissait leurs animaux, ramassait les œufs, et quand elle soulevait les paniers remplis, une douleur irradiait dans le bas de son dos et la faisait grimacer. « Au moins, quand le bébé sera né, je pourrai me pencher dans le jardin sans risquer de basculer tête première », pensa-t-elle en soupirant. La jeune femme n'avait pas remis les pieds au magasin général depuis le 15 juillet non plus, se contentant de dresser une liste à Freddy qui ramenait des denrées lorsque c'était nécessaire. Constatant son hésitation, Lucienne leva les bras dans les airs et s'exclama « En tout cas, moi, j'y vais. Je veux pas manquer le spectacle. Il y a 6 ans, c'est le vieux Lévesque qui avait sorti un esturgeon noir de 180 livres et j'étais coincée à l'hôpital avec une pneumonie. » Lucienne tourna son corps dodu sans plus attendre et descendit les 2 marches du balcon. Palmyre fit un geste de la main indiquant à Madeleine de suivre l'autre femme. « Allez, vas-y, tu me raconteras tout ça en détail. Tu seras mes yeux et mes oreilles. »« Vous êtes certaine, grand-mère? » chuchota Madeleine, de plus en plus tentée. La vieille hocha la tête et se retourna vers la mère. Sans l'avouer, elle regretta les belles années de sa vie alors qu'elle n'aurait pas hésité à sauter sur ses pieds pour courir à la plage. La nostalgie lui fit verser une larme dès que Madeleine s'éloigna dans le chemin derrière Lucienne. Le temps passait beaucoup trop vite. Quand elle vit son ami Rosario s'arrêter devant la maison à son tour, elle le salua d'un signe de la main. « Veux-tu venir avec moi, Palmyre? » cria l'homme au milieu du chemin. Pendant un court instant, l'octogénaire eut envie d'accepter l'offre, mais un coup d'œil vers sa canne appuyée au mur la ramena à la réalité. Il aurait fallu qu'elle s'y rende en automobile. Or, à part Jean-Julien, personne dans la famille ne possédait de véhicule motorisé. De toute manière, Palmyre ne faisait pas confiance à ces machines du futur. Elle se souleva pour s'avancer sur le bout de sa chaise et répondit « Non, non, Rosario, tu viendras me raconter ça. » Alors le vieux à la tête toute blanche s'éloigna en promettant à sa chère amie de revenir la voir pour lui décrire la scène. D'un pas vigoureux, l'ancien pêcheur disparut bien vite de sa vue. « On dirait qu'il vieillit pas, lui, » marmonna Palmyre en haussant ses épaules rondes. Elle prit appui sur les bras de la chaise pour soulever son vieux corps et retourner à l'intérieur s'occuper des poids. Dès qu'elle s'engagea dans la côte du Sureau, Madeleine commença à douter du bien fondé de son expédition. Autour d'elle, les villageoises sortaient de leurs habitations respectives et se regroupaient pour commenter la nouvelle. Sachant que sa sœur risquait de se retrouver parmi elles, Madeleine avançait sur le chemin de terre, les yeux rivés sur le sol, pour éviter de regarder les autres gens. Au moins, pour la première fois depuis le 15 juin, la nouvelle de la pêche miraculeuse volait la vedette à celle de la noyade des Lois. Comme un baume sur une plaie béante pour les habitants de L'Anse à la Joie, qui voulaient chasser la morosité dans l'air. Lorsqu'elle arriva à côté du garage Lévesque, à l'intersection du chemin principal, Madeleine sentit tout à coup une petite main moite se glisser dans la sienne. « Allô, ma tante Maddy? » susurra une voix enfantine. Le cœur de Madeleine fit un bond dans sa poitrine tandis qu'elle détourna le regard sur le visage souriant de sa nièce Philomène. « Oh, bonjour, ma puce. Tu vas voir le frétin, toi aussi? » « Oui, mais dis-moi, Philomène la Violette, viens ici tout de suite! » La gamine sursauta alors qu'une crispation noua le corps de Madeleine. La voix de sa sœur, si semblable à la sienne, venait de claquer derrière le duo. Aussitôt, Philomène déguerpit sur ses jambes pour aller retrouver sa mère, qui la semonça vertement, alors que les villageois autour les observaient avec embarras. Madeleine, après une pause dans sa marche de quelques secondes, se remit en mouvement en sentant son visage devenir rouge de honte. Elle avait le souffle court, sans savoir si sa grossesse ou la tristesse en était la cause. Derrière elle, les femmes parlaient à voix basse et ne se gênaient guère pour commenter la scène. Madeleine ferma les yeux en souhaitant se réveiller de ce mauvais rêve. Les murmures parvenaient à ses oreilles et elle eut envie de hurler de rage. « Mon doux que c'est difficile toute cette affaire-là. Me semble que Simone exagère. Moi, je pense que... » Bouleversée par la sévérité du ton de Simone, Philomène ne répondit pas à sa mère, préférant cacher son visage dans la robe de cette dernière. Celle-ci, désolée d'avoir réprimandé sa fille devant tout le monde, déplaça Béatrice sur sa hanche droite pour serrer Philomène contre elle de sa main libre. La femme évitait de regarder sa sœur, qui se déplaçait moins rapidement que les autres passantes. « Elle a du culot quand même !» songea Simone en ignorant la petite voix dans sa tête qui lui rappelait à quel point les sœurs avaient partagé toute leur vie les arrivées de pêche miraculeuse. Quand l'un des hommes rapportait une prise exceptionnelle, c'était la fête au village. Tous ressentaient une grande fierté à l'idée que l'anse à la joie ait les honneurs des premières pages des journaux gaspésiens. En continuant lentement à avancer, Simone se rappela bien malgré elle la fois où leur père avait pêché un esturgeon de 150 livres. Les jumelles, alors âgées de 9 ans, avaient couru sur le quai pour se jeter d'un même mouvement contre Marcelin, ce qui l'avait fait basculer dans un gros bac de bois rempli de poissons morts. En dépit du geste de ses filles, l'homme les avait serrées longuement en riant à gorge déployée. Émergeant de son souvenir, Simone reporta son regard sur les gens dans le chemin gaspé. Lucienne avait rejoint un groupe de villageoises animées qui marchaient devant Madeleine. Ayant entendu le cri de Simone, la sexagénaire se retourna pour faire un léger sourire embarrassé à Madeleine. La vue du chagrin qui plombait les traits de la future mère lui brisa le cœur. Alors incapable de résister, elle revint sur ses pas pour la rejoindre. Elle ignora le regard des autres femmes et, prenant la main de Madeleine dans la sienne, elle souffla « Un jour, la tempête va passer, ma fille, un jour. » Madeleine ne put que secouer la tête en laissant deux larmes couler sur sa joue. Elle mettait toute sa force pour éviter le déluge et savait qu'en ouvrant la bouche pour répondre, elle ne pourrait arrêter les flots. Sur le dernier tronçon du chemin gaspé, juste avant la plage, l'allégresse se ressentait. « Il devrait arriver bientôt. C'est qui le pêcheur? » cria un vieux qui peinait à tenir sur ses jambes. Sans lui répondre, un autre s'exclama « Ça a l'air que ce serait un méchant gros flétan. Jérôme parle de 400 livres. » « Comment il sait ça, lui? 400? Impossible! » Les questionnements restaient sans réponse, alors que les enfants couraient partout et que les adultes observaient le large, la main en visière sur le front. Selon certains, c'est un pêcheur de Cap d'Espoir, ayant terminé sa journée plus tôt, qui avait annoncé la nouvelle à quelqu'un de l'anse à la joie, qui à son tour se serait empressé de revenir au village répandre la rumeur. Mais personne n'était à même de nommer le pêcheur chanceux. Les ménagères, les commerçants, les aînés du village ainsi que les enfants, tous s'empressèrent de rejoindre les terriens de la compagnie Robin. Les petits groupes se formaient pour commenter l'information, en espérant que l'heureux élu soit un membre de leur famille. Père, frère, cousin, beau-frère, peu importe. L'honneur rejaillissait sur tous quand un pêcheur rapportait une telle prise. On en parlait pendant des mois au magasin Taillefer. Madeleine s'installa à l'écart, assise sur une grosse roche. Ses yeux voguaient d'une personne à l'autre et elle constata à quel point les choses avaient changé en l'espace d'un peu moins de 2 mois. On lui lançait des regards gênés et peu s'aventurait près d'elle. Il faut dire que son tempérament réservé n'avait jamais attiré les foules, au contraire de l'énergie de Simone. Géraldine Veillette, quant à elle, la dévisageait avec une telle colère que Madeleine eut envie de s'éclipser sans attendre. Son visage se couvrit d'un voile de sueur devant le mécontentement qu'elle lut sur les traits de la grande femme blonde. « Pourquoi m'infliger ça? » se demanda Madeleine en se relevant difficilement pour retourner chez elle. Alors qu'elle se redirigeait vers le chemin gaspé, Madeleine entendit une voix amicale derrière elle. « Je te dis, ma fille, que ton père aurait aimé voir ça. Après son esturgeon, il arrêtait plus de nous dire qu'un jour, un pêcheur sortirait un poisson de 300 et même 400 livres, te rappelles-tu? Ta mère le trouvait même fatigant. » La jolie brune leva son regard noisette vers Jean-Julien, son oncle photographe, qui s'approcha, les deux mains au fond de ses poches de pantalon. Il pointa son menton vers le large en sifflant entre ses dents. « J'ai hâte de les voir arriver! » Jean-Julien resta à ses côtés sans dire un mot, les jambes légèrement écartées. Il tira sur sa pipe, les yeux à demi fermés. Au bout d'un moment, il pointa le tuyau noir vers le ventre de sa nièce. « Comment ça va? » demanda-t-il. « Je veux dire, tout va bien avec... Mal à l'aise, l'homme qui n'avait jamais eu d'enfant ne continua pas sa phrase. Madeleine hocha la tête en tentant d'arrondir un peu le dos pour éviter d'exposer son gros ventre. Il n'était pas usuel de discuter grossesse et enfantement avec des hommes, même lorsqu'ils étaient des parents de la future mère. Alors Jean-Julien releva sa pipe jusqu'à sa bouche. Juste avant de l'y enfouir, il s'informa encore à voix basse. « C'est pour bientôt, je pense bien. » « Une dizaine de jours, » soupira Madeleine. L'homme aspira quelques petites bouffées avant de rajouter « Ça doit pas être évident avec la chaleur des derniers temps. Il y a pas d'air dans nos maisons. En tout cas, lâche pas la petite. » Madeleine lui fit un sourire reconnaissant en évitant de regarder en direction du trio composé de Simone, Géraldine et Lucienne. Son oncle changea de sujet. « T'as des nouvelles de Clémence? » « Je te dis qu'elle vient pas trop souvent nous voir. La dernière fois, c'est au mois de juin, me semble. » Aussitôt qu'il eut prononcé ces quelques mots, le quinquagénaire célibataire grimaça en réalisant que cette visite de la plus jeune des filles, Gérard, à Lens à la Joie, avait concordé avec les funérailles des lois. Mais Madeleine ne s'en formalisa pas et répondit « J'ai l'impression qu'elle travaille beaucoup et elle dit que c'est long de venir ici en autobus. Quand même, » marmonna Jean-Julien. « Comment veux-tu que je m'assure qu'elle aille bien si elle habite à l'autre bout de la province, hein? » Le photographe s'informait toujours de la cadette des sœurs, qui lui causait bien des soucis avec ses idées de liberté. Il lui avait d'ailleurs fait part de ses inquiétudes au moment de son départ pour Rimouski, ce à quoi Clémence avait répondu « Je suis capable de prendre soin de moi, mon cher oncle. » Madeleine sourit en pensant à sa sœurette un peu désinvolte. Elle répondit sans réfléchir. Elle doit pas avoir le goût d'être mêlée à nos chicanes de famille. Puis, elle cessa de parler en baissant la tête sur ses souliers défraîchis. Heureusement, le chahut reprit sur la plage et les villageois qui se pressaient vers les premiers bateaux accostants leur permirent, à son oncle et à elle, de laisser tomber le sujet. Madeleine se dirigea péniblement vers le quai pour voir qui était le chanceux ayant attrapé la prise du jour. Elle resta à l'écart et ne put s'empêcher de regarder avidement sa jumelle, quelques pieds devant. Simone tenait son bébé d'un an à présent, sur sa croupe, et écoutait les autres femmes qui espéraient, comme elle, que leur époux soit le pêcheur ayant eu de la chance. Avant, sa sœur aurait été celle parlant le plus fort, riant et blaguant sans relâche. Simone aimait divertir les gens depuis l'enfance. Ses parents, parfois découragés par son énergie, se demandaient bien d'où sortait cette fillette aussi extravertie. Autant Marcelin que Carmel étaient des êtres discrets, à l'instar de leurs trois autres enfants. Mais depuis la mort d'Éloi, cette vivacité avait déserté sa mère. Elle a maigri en plus, pensa Madeleine en sachant que la douleur était la cause de cette perte de poids. Puis elle posa ses yeux sur Béatrice, qui mordillait son poing en tentant d'échapper aux bras de sa mère. « La petite a fêté son premier anniversaire sans moi. Mon doux qui ressemble à Éloi, » constata Madeleine, le cœur brisé. Cette constatation douce amère la ramena à la journée fatidique. Elle sentait presque la petite main de son neveu contre sa joue et son goût un peu salé quand la femme l'embrassait affectueusement. Simone finit par se lasser des trémoussements de son bébé et la déposa sur le sol. Béatrice oscilla quelques secondes avant de se stabiliser. Sa mère ne la quittait pas longtemps du regard. J'imagine qu'elle les laissera plus jamais s'éloigner, songea Madeleine avec culpabilité. La jeune femme sortit de ses pensées en entendant les cris de joie et les exclamations de surprise qui parvenaient jusqu'à ses oreilles. Elle observa Géraldine, qui quitta le groupe de villageoises et s'avança rapidement vers le bout du quai. Restée à l'écart, Madeleine la vit revenir, pousser Simone sur l'épaule avec excitation. « Je pense que c'est ton mari !» s'exclama la grande blonde, un large sourire laissant voir sa dentition inégale. « Pour vrai ?»« Oui, attends ! Hey, Tibouk !» cria la costaude. « C'est vrai que c'est Tom, le chanceux ?» Le mari de Lucienne sauta sur la plateforme de bois et hocha vigoureusement la tête. Comme les autres, il attendait la barge de Freddy et Tom. Au fond de son être, Madeleine ressentit un sentiment semblable à de la joie. Elle croisa ses doigts derrière son dos pour que la rumeur soit vraie. Quand enfin le bateau des deux pêcheurs arriva près du quai, Tom se tenait en avant, un sourire flamboyant sur son visage maigre. Il leva les mains bien haut avant de crier « Eh bien, bel accueil! Qu'est-ce qui nous vaut ça? On veut le voir! Grouillez-vous un peu! » Freddy, qui était resté à l'arrière de la barge, pointa avec fierté une grosse tache blanche dans l'eau. Les manches de sa chemise roulées sur ses avant-bras, il enfila ses manigots et les murmures se mirent aussitôt à bourdonner.
un flétan, pas l'air si gros. Contente pour Tom, il a besoin d'une bonne nouvelle. »
Sautant sur le quai pour attacher la corde, le blond se dirigea ensuite vers l'arrière du bateau et rembarqua aux côtés de son beau-frère. Pour la première fois depuis le 15 juin, les deux hommes jubilaient et partageaient la même satisfaction. Alors, sous les yeux envieux et heureux, les pêcheurs se penchèrent par-dessus la barge et se mirent à tirer leur prise.
« Il est tellement gros qu'on n'a pas pu l'embarquer dans la barge », expliquait Tom avec enthousiasme aux villageois rassemblés sur la plateforme de bois. « Ça fait qu'on lui a passé un câble dans les ouïes et on l'a laissé traîner dans l'eau tout le long de la baie. Ça nous a pris 2 heures juste pour le ramener proche de la barge. Et une vraie bête féroce. Pas besoin de vous dire qu'on est revenu aussitôt qu'on l'a eu », s'exclama Freddy, en replaçant les bretelles de son pantalon goudronné.
Ses bas gris en laine dépassaient de ses bottes de cuir imperméabilisées à l'huile de lin. Au fond du cœur de Madeleine, la tristesse des derniers mois fit momentanément place au bonheur. Tom n'avait jamais caché qu'il espérait avoir la chance un jour de rapporter une grosse prise. Émile Pelletier, qui était demeuré discret, s'avança vers le duo de pêcheurs pour leur prêter main forte. Il avait pris le temps d'enfiler son tablier de caoutchouc. La bonne humeur générale régnait lorsque les deux beaux-frères se tinrent debout sur le quai, agrippant chacun un côté du fil de fer où était enfilé le poisson. Élevant les bras bien haut, ils présentèrent la bête sous les cris et les applaudissements. Les villageois purent constater la fierté sur les traits las de Tom et Freddy. Ils s'empressèrent de commenter leur réussite.
« Tu parles d'un beau flétan !» lança un homme un peu jaloux. « Ce poisson-là doit bien faire 300 livres !» s'exclama Émile en donnant un coup amical sur l'épaule de Tom. « Ça va vous rapporter au moins 1 piastre la livre, ça ?» rajouta un autre.
Le flétan pêché par les beaux-frères était un poisson plat, au corps brun sur le dessus et crème sur le dessous. Ses deux yeux globuleux étaient situés du côté droit de sa tête et ses longues nageoires dorsales formaient des franges autour de son corps. Enthousiaste, Tom sourit à la ronde et son regard s'attarda sur sa femme, qui essuyait une larme furtive. Le grand moustachu ferma les yeux un moment, partageant la même pensée que Simone. Comme Éloi aurait été content de voir ce poisson. Mais Tom refusa de laisser son instant de gloire terni par son sombre souvenir. Épuisé par des nuits tourmentées depuis la mort de son fils, l'homme avait envie de vibrer de nouveau. Il leva la tête vers le ciel et pria pour que son garçon, là-haut, ait une vue directe sur la belle prise de son papa. Il lança d'une voix puissante qui fit frémir tous les villageois attroupés près de lui.
« C'est pour toi, mon gosse poisson-là, pour te faire honneur, mon bonhomme! »
Incapable de retenir ses pleurs, Madeleine se détourna aussitôt pour fuir l'endroit. Elle s'y sentait comme une intruse, une voleuse de bonheur. Seul Jean-Julien eut conscience du départ de la jeune femme et il hésita sur la conduite à suivre. Mais lorsqu'il songea à la rattraper pour la consoler, Simone se retourna vers le haut de la route Gaspé avec une telle rancœur sur son visage que le photographe changea d'idée.
« Vous allez en avoir pour toute la nuit à préparer cette bête-là? » remarqua Girola Taillefer. « Pantoute, lâcha Tom, on n'a pas l'intention de s'en occuper. »
Contrairement à son habitude, le pêcheur avait en effet décidé d'apporter le poisson directement à l'usine de transformation de la compagnie Robin, près de Percé. Il pourrait recevoir un montant adéquat pour cette pêche miraculeuse, et cette démarche leur éviterait des heures de travail à nettoyer le flétan. « En plus, songea Tom, je ne serai pas obligé d'endurer Freddy plus longtemps. Déjà assez que je partage la barge avec lui. »